Totem, le jardin secret. Une célébrité passe la semaine avec vous et se raconte.
Je vais lui dire bonjour dans un instant, même si je serais tenté de lui dire bonsoir, car c'est comme ça que notre invité salue les téléspectateurs en ouverture de ses émissions de télé. Quoi de plus banal, vous allez me dire, qu'un bonsoir ? Mais une intonation peut en faire une signature. Et c'est cette voix si reconnaissable qui va résonner dans votre radio cette semaine, celle de Frédéric Mitterrand, qui est votre invité. Bonjour Frédéric Mitterrand.
Bonjour.
Alors, on vous reçoit, car dans votre dernier ouvrage, vous revenez sur le lien qui vous unissait à une personnalité de nos régions, un Auvergnat célèbre, très attaché à son château aveyronnais d'Estaing. Je veux parler de Valéry Giscard d'Estaing. Vous publiez chez XO Éditions l'entretien que vous avez réalisé à la télé en 2015 avec le président, sa dernière interview télévisée avant sa mort. Alors, tout d'abord, comment fait-on pour convaincre Valéry Giscard d'Estaing de se laisser interviewer par un Mitterrand ?
Eh bien, on y va lentement. On l'apprivoise comme un grand fauve, mais on y arrive. J'ai beaucoup été aidé, d'abord parce qu'il avait apprécié certaines de mes émissions. Ensuite, parce que lorsque j'exerçais certaines fonctions, je le connaissais régulièrement. Et puis parce que ensuite j'ai fait un documentaire sur les Émirats arabes unis. Or, il a été le premier chef d'État européen à reconnaître véritablement l'importance des Émirats arabes unis. Et donc, je l'avais interviewé, il était très sensible. À partir de ce moment-là, la glace était rompue.
Alors, Valéry Giscard d'Estaing était un personnage très complexe. Pourquoi vous avez aimé cet homme ?
Pourquoi je l'ai aimé ? D'abord, j'ai aimé sa solitude. Je le trouvais assez touchant, émouvant et même impressionnant qu'un homme qui avait fait tellement de choses pour notre pays se soit retrouvé tellement seul. Alors, il avait sa famille, il avait quelques amis, tout ça faisait un monde très, très aimant autour de lui, mais en fait, il était seul. Et ça, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'injuste. On faisait des émissions sur mon oncle François, sur Chirac, mais sur lui, presque pas. Et en somme, il avait sombré dans une sorte de semi-oubli, qui était totalement injuste, parce que nous vivons aujourd'hui en France sur des tas de choses qu'il a réformées et qui nous ont permis d'avoir une vie plus agréable et plus facile. Mais simplement, c'est toujours la même chose quand on a des revendications. Tant qu'on ne les a pas obtenues, on ne parle que ça. Et puis quand on les a obtenues, on n'y pense plus. Si je prends, par exemple, la majorité à 18 ans ou des choses comme ça.
Alors, il y a de l'humour, de l'amusement même dans les anecdotes qu'il rapporte dans cet entretien.
C'est une conversation. Ouais. C'est une conversation, c'est-à-dire que ce n'est pas un interview. C'est une conversation amicale. Et je pense que dans une conversation amicale, on dit beaucoup plus de choses qu'on ne le dirait à un journaliste bien calibré, bien organisé.
Et du coup, on peut se pencher des fois sur des choses qui font plus mal, qui sont plus difficiles à avouer, c'est les blessures, les regrets. Quel était justement son plus grand regret à Valéry Giscard d'Estaing ?
À mon avis, son plus grand regret, il ne l'a pas dit. Et je pense qu'il ne l'aurait jamais dit. C'était de ne pas avoir aboli la peine de mort. Il dit le contraire pendant l'entretien, mais on a reparlé à plusieurs reprises ensuite parce qu'on a continué à se voir. Je pense qu'il a engagé des réformes très importantes pour notre pays, il aurait dû engager celle-là et il n'était pas loin de penser que j'avais raison de le pousser dans cette direction-là. Simplement, bon, il a été là 7 ans, il n'a pas fait. Voilà.
Totem, le jardin secret.
Notre invité de la semaine était le petit de la famille dans une fratrie de 3 enfants, le petit dernier, comme on a coutume de dire. Mais le petit aspirait à devenir grand et il l'est devenu. Il a vu la vie en grand écran tout d'abord, puis il a côtoyé les plus grands, comme Valéry Giscard d'Estaing qui est au centre de son dernier ouvrage. C'est Frédéric Mitterrand qui est votre invité cette semaine. Bonjour Frédéric Mitterrand.
Bonjour.
Ce petit qui aspirait à devenir grand, il avait quoi comme rêve en tête ?
Il avait sans doute un peu le rêve de faire de la politique, puisque la famille était complètement soudée autour de François Mitterrand, qui était la statue du commandeur. Donc, il avait l'idée de vouloir lui plaire. Et puis autrement j'étais comme beaucoup de garçons de 13 ans, 14 ans, j'avais une infinité de petits rêves, mais rien de très très grand pour m'emporter.
Mais des rêves qui permettaient finalement d'alimenter votre imaginaire, parce que vous avez...
J'adorais le cinéma.
Ouais.
Voilà, j'adorais le cinéma, j'y allais beaucoup et en plus j'ai tourné un film quand j'avais l'âge de 13 ans, donc je pensais que d'une manière ou d'une autre, je retrouverais le cinéma.
Mais vous étiez déjà dans votre monde à vous. Vous avez coutume de dire que celui qui vous faisait rêver était finalement très éloigné de votre vie familiale.
Bah, les rêves sont toujours éloignés de la vie familiale. On essaye toujours d'atteindre ce qui est inatteignable. Mais je dois dire que j'étais partagé entre l'affection, admiration très grande que je portais à mon oncle et puis l'admiration historique, en quelque sorte, que j'avais pour le général de Gaulle. Mais je suis comme beaucoup enfant, j'étais comme sont devenus beaucoup de Français. Et aujourd'hui, maintenant, au fond, beaucoup de Français ont la nostalgie gaulo-mitterrandienne, j'allais dire.
Alors, vous dites que vous ressembliez à vos camarades de l'époque, sauf que quand on se présente à un casting de cinéma sans avertir ses parents, on n'est pas un enfant comme les autres, finalement, Frédéric Mitterrand.
Mais non, j'étais sans doute un enfant. J'étais très gentil, poli et tout ça, mais j'étais assez secret. Et donc, il y a beaucoup de choses que je ne confiais pas. Effectivement, quand je suis allé à ce casting pour ce film qui s'est fait, qui était Fortuna avec Bourvil et Michel Morgan, eh bien, j'y suis allé tout seul. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis d'obtenir le rôle, parce que tous les autres enfants, des préadolescents en quelque sorte, tous les autres enfants venaient accompagner leurs parents. Et alors, évidemment, moi j'étais tout seul dans mon coin, les assistants qui faisaient le casting étaient un peu surpris. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Frédéric. Je ne voulais pas dire mon nom en plus. Et donc, il y avait autour de moi une espèce de climat de mystère qui a piqué d'intérêt les producteurs et les réalisateurs. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire tous les éliminatoires, jusqu'au moment où il a bien fallu que je dise mon nom et qu'ils appellent mes parents, qui n'en sont pas revenus, évidemment.
À côté de ça, vous aviez un goût très prononcé pour la littérature quand vous étiez gamin. L'homme de lettres a d'ailleurs même été enseignant au départ. Puis bon, finalement, vous êtes tourné vers ce rêve de cinéma dans un premier temps. L'image était
Oui.
plus forte que les mots, Frédéric Mitterrand.
Je ne sais pas si l'image était plus forte que les mots, elle était plus présente en tout cas. Dans la mesure où moi je m'identifiais au film que j'aimais, comme tous les spectateurs, c'est-à-dire le rôle du cinéma. Un film bien fait, c'est un film qui permet aux spectateurs de s'identifier aux personnages ou aux situations. Et en vérité, je vivais par procuration, en fait. À travers le cinéma. Je voyais mes parents dans des personnages de cinéma, je voyais mes amours ou des situations dans des scènes de cinéma. Je me rappelle quand j'ai vu pour la première fois un film avec Nathalie Wood et Warren Beatty qui s'appelait en français La fièvre dans le sang, j'ai eu l'impression que vraiment je voyais un film qui ça racontait mon histoire.
Nous, c'est par le biais d'un autre écran qu'on vous a connu, celui de la télévision. Même moi, ça m'a servi à étudier le cinéma, figurez-vous, quand j'étais en
Ah bah
A3
tant mieux.
audiovisuel, parce que je me
Tant
souviens
mieux.
d'un numéro d'Étoile Étoile consacré à François Truffaut que nous avait diffusé notre professeur. La télé, justement, on en parlera demain dans un nouveau rendez-vous. À demain, Frédéric Mitterrand.
À demain, à demain.
Totem, le jardin secret. Tous les jours à 9h10 et le samedi de 9h à 10h pour les meilleurs moments.
C'est mercredi, la journée du cinéma. Le 7e art, c'est l'une des passions justement de notre invité de la semaine. Il a tourné des films. C'est aussi grâce à cette passion qu'il est entré à la télé, puisque sa première émission, c'était une émission de cinéma. Et c'est d'ailleurs une interview réalisée pour la télé qui nous vaut de le recevoir cette semaine, puisqu'il publie chez XO Éditions cet entretien, cette conversation libre, réalisée en 2015 avec Valéry Giscard d'Estaing. C'est Frédéric Mitterrand qui est avec nous jusqu'à vendredi. Bonjour Frédéric Mitterrand.
Bonjour.
Comment celui qui rêvait de grand écran depuis qu'il était petit s'est-il retrouvé finalement dans le petit?
Je me suis retrouvé dans le petit parce que il y a un caractère d'urgence à la télévision. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire passer toutes sortes d'éliminatoires avec des producteurs, avec des commissions d'avance sur recettes et des choses comme ça. Si ça marche, ça marche tout de suite. Je suis entré à la télévision par effraction. À l'époque, le directeur de la télévision, François Mitterrand avait été élu. Le directeur de la télévision a cru que ce serait une bonne manière de faire avancer sa carrière que d'engager le neveu. S'il avait su à quel point ce genre de choses-là exaspérait mon oncle, et moi-même, j'avais aucune envie de jouer cette carte-là. Mais dans la mesure où on me la mettait dans la main, ben, je l'ai posée sur le tapis.
Ça veut dire que vos débuts ont été compliqués. On vous voyait d'un...
Non, j'ai été très peu bizuté. Parce que moi, je suis quelqu'un d'assez assez gentil quand même. Donc, je ne suis pas arrogant. Je ne veux pas traiter les gens de haut ni faire le malin. J'avais tout à apprendre et j'ai été au contraire dans cette optique-là.
Qu'est-ce qui vous a le plus amusé à la télé, Frédéric Mitterrand ?
Amusé, je ne sais pas, mais tout m'a intéressé en tout cas. Tout m'a intéressé. Le direct, les longs documentaires où je passais des nuits entières à enregistrer le commentaire, les émissions de variété auxquelles j'ai pu participer. Il y en a quelques-unes, j'ai fait des trucs qui n'étaient pas bien, hein, qui étaient vraiment médiocres. Mais en gros, j'ai quand même pratiquement fait toujours des trucs qui me plaisaient. Et quelquefois, quand je faisais des choses qui ne me plaisaient pas, j'essayais d'y mettre autant de cœur pour qu'on ait l'impression que ça me plaisait. Et je les faisais parce que je me disais que c'était une manière de donner des gages à la direction des programmes pour que, précisément, je n'ai pas l'air d'être le type qui n'en fait qu'à sa tête.
Je suis patron de chaîne, je vous embauche. Ça vous intéresse toujours la télé, Frédéric Mitterrand ?
Ben oui, vous devriez remplacer Madame Ernotte, comme ça vous me prendriez, oui, ça serait content, tout de suite.
Et alors, quand vous dites ça, c'est parce que vous pensez que tant qu'elle sera là, les gens de votre âge n'auront pas leur place à la télé, c'est ça, Frédéric Mitterrand ?
Je pense qu'il y a une double chose. Il y a une obsession du jeunisme à la télévision et du renouvellement, qui est le contraire de la télévision américaine. Quand vous regardez la télévision américaine, vous voyez des gens de 80 ans qui présentent des programmes et qui sont très bien. Hein. Ça, c'est une première chose. Une obsession du jeunisme et du renouvellement, toujours la course à l'audience, comme ça. Et par ailleurs, on ne vous pardonne pas d'avoir été ministre. Mais qu'est-ce qui vient encore, celui-là, nous demander quelque chose, hein, voilà. Et donc, ça rend les choses beaucoup plus difficiles. J'ai beaucoup plus de mal à faire la télévision maintenant que je n'en avais il y a 15 ans.
En raison justement de votre passage au ministère de la Culture, Frédéric Mitterrand ?
En raison des deux choses que je viens de vous dire, c'est-à-dire je suis plus assez jeune, et puis quelqu'un qui a été ministre, c'est quelqu'un qui a trahi en quelque sorte la déontologie des artistes. C'est totalement faux, hein, c'est une idée totalement fausse, mais c'est une idée très répandue. Il est très répandu, non pas chez les artistes, mais chez ceux qui les gèrent, c'est-à-dire les directeurs de programme, les directeurs de chaîne.
La politique, les grands de ce monde vous intéressent depuis que vous êtes tout petit. Je le disais au début de la semaine, vous êtes fasciné par le général de Gaulle depuis votre enfance. Cet univers politique que vous avez côtoyé de près, ces grands noms de la politique que vous avez croisés, on les évoquera à travers votre ouvrage demain dans notre avant-dernier rendez-vous. À demain, Frédéric.
À demain.
Totem, le jardin secret.
En juin 2015, Frédéric Mitterrand s'était invité chez Valéry Giscard d'Estaing pour une conversation libre, diffusée sur la chaîne parlementaire LCP. Cette rencontre inattendue avait dévoilé la personnalité profonde de l'ancien chef d'État. Cette conversation est devenue un livre qui vient de sortir chez XO Éditions. Et à cette occasion, Frédéric Mitterrand est votre invité jusqu'à demain. Bonjour Frédéric Mitterrand.
Bonjour.
La politique, justement, fait partie de votre vie, de votre histoire familiale. Vous employez...
Ça fait partie de la vie de tous les citoyens. Hein,
oui, mais vous encore plus, parce que vous évoquiez en début de semaine, pour parler de votre oncle, François Mitterrand, la stature du commandeur dans votre famille qu'il était. Justement, quand en même temps, on découvre le général de Gaulle à l'âge de 13 ans, qu'on lit ses mémoires, qu'on est fasciné par le personnage... Est-ce que c'est facile à vivre ?
D'abord, quand on a 13 ans, il y a des tas d'autres choses qui sont difficiles à vivre. Les admirations pour les grands hommes, c'est facile à vivre. Alors, quand elles se carambolent un peu, comme dans le cas présent entre le général de Gaulle et François Mitterrand, c'est un peu compliqué. Mais en fait, on se fait une sorte de panthéon personnel. Et je vivais l'idée que de Gaulle, à ce moment-là, c'était l'histoire en train de s'écrire, et que François Mitterrand, ce serait l'histoire telle qu'elle s'écrira plus tard. Donc, en quelque sorte, il y avait une file d'attente. Voilà.
Alors,
et donc, je me débrouillais comme ça.
Ça a été véritablement une révélation pour vous quand vous avez lu ses mémoires, quand vous étiez adolescent, Frédéric Mitterrand ?
Ouais, je trouve qu'on devrait conseiller les mémoires du général de Gaulle dans les cours de littérature et dans les cours d'histoire, bien sûr. Vous savez, moi, j'ai une expérience. Quand j'étais ministre, j'ai fait un atelier de littérature dans une prison de long séjour. Hein. Et donc j'avais apporté un certain nombre de textes et que je lisais et puis on commentait avec les détenus. Et j'avais apporté notamment une page du général de Gaulle et avec Rimbaud, La Fontaine, enfin des classiques. Rimbaud plaisait beaucoup, La Fontaine aussi, d'autres classiques, mais celui qui était en tête, c'était le général de Gaulle. Parce que ça les intéressait, parce que c'était à la fois pratique et romanesque.
Alors, comme Giscard, comme votre oncle, vous avez fait plus tard de la politique en étant ministre de la Culture. Est-ce que François Mitterrand aurait été amusé que son neveu devienne ministre dans un gouvernement de droite ?
Eh ben, je suis sûr que oui. J'y ai beaucoup réfléchi, vous pouvez imaginer. Il avait le respect des fonctions ministérielles. Alors, de droite ou de gauche, il aurait certainement préféré que je devienne le ministre de la Culture de gauche, mais il en avait un sous la main d'une envergure exceptionnelle, à savoir Jacques Lang. Donc, il n'allait pas en chercher un autre, et surtout dans sa famille. Donc, finalement, il aurait très bien compris que, de toute façon, je n'avais pas d'espace politique dans sa famille politique. Et donc, voilà. Il avait une relation très, très ambiguë à mon égard. Il disait tout le temps des compliments sur moi quand je n'étais pas là. Et quand il était avec moi, il était implacable. Peut-être parce qu'il aurait voulu que je lui ressemble plus, alors qu'en vérité, je lui ressemble pas mal. Je me rends compte avec l'âge et le temps qui passe. Et en même temps, c'était quand même le réflexe du vieux chimpanzé, quoi, qui n'aime pas, du mâle dominant, qui n'aime pas que les petits chimpanzés s'agitent autour de lui. Donc, il me trouvait toutes sortes de défauts, et il me les reprochait d'une manière assez cruelle, ce qui moi, me faisait de la peine. Donc, ça crée une relation un peu compliquée. C'est pour ça que quand il était président, je suis allé très peu à l'Élysée. En 14 ans, je crois que je suis allé 10 fois. C'est pas beaucoup, si vous imaginez qu'il a été président pendant 14 ans.
Le pensionnaire avant lui, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Au centre de cet ouvrage, cette conversation libre que vient de publier XO Édition. Et demain, bah, pour finir la semaine, bah, un peu à l'image du titre, une interview sans rancune et sans retenue pour terminer la semaine. À demain, Frédéric Mitterrand.
À demain.
Totem, le jardin secret. Une célébrité passe la semaine avec vous et se raconte.
Sans rancune et sans retenue, conversation avec le président Valéry Giscard d'Estaing. C'est le titre de ce livre que vient de publier Frédéric Mitterrand chez XO Édition. La retranscription de la dernière interview du chef de l'État avant sa disparition. Une interview réalisée en 2015 pour la chaîne parlementaire. À cette occasion, Frédéric Mitterrand est avec nous pour la dernière fois de la semaine. Bonjour Frédéric Mitterrand.
Bonjour.
Sans rancune, sans retenue, interview vraie ou faux ce matin. Tout d'abord, est-il vrai que vous êtes nostalgique ?
Les nostalgiques, ce sont les gens qui regrettent le temps d'avant, qui voudraient que le temps d'avant revienne. Moi, je ne veux pas que le temps d'avant revienne. Je trouve que le temps d'aujourd'hui est passionnant, donc ce n'est pas la peine qu'il revienne. En revanche, je pense qu'il faut le connaître. Donc, je suis plus historien ou historiographe que nostalgique. Il faut connaître le passé pour comprendre le présent.
On l'a vu au cours de cette semaine, vous avez eu plusieurs vies, même si, j'ai envie de dire, le dénominateur commun de tout ce que vous avez fait, c'est raconter des histoires, Frédéric Mitterrand.
Alors là, je vous suis vraiment très reconnaissant, parce que, en fait, vous dites ce que j'essaye de faire passer souvent, c'est que j'ai toujours fait la même chose. J'ai toujours raconté des histoires. Quand j'étais professeur, quand j'avais des salles de cinéma, je racontais des histoires à travers les films que je montrais. Et quand j'étais ministre, je racontais des histoires toute la journée pour essayer de convaincre les gens qui m'entouraient de faire avancer le schmilblick, en quelque sorte.
Malgré ça, parmi toutes ces vies, est-il vrai que la période que vous aimeriez revivre, c'est la période où vous avez dirigé la Villa Médicis ?
Sans doute, parce qu'elle était trop brève. C'est-à-dire que j'ai dirigé la Villa Médicis pendant un an. Les trois premiers mois, j'étais dans un désespoir abyssal parce que je me disais, mais je ne vais jamais y arriver. Rome est trop beau, il y a trop d'histoires. Tout ce fardeau du passé, justement, me tombait sur les épaules. Je n'arrivais jamais à m'en défaire. Il y a trop de beauté autour de moi, je n'y arriverai pas. Et puis après, je m'y suis mis et puis ça a commencé à marcher très bien. Et à ce moment-là, on m'a proposé d'être ministre. Alors j'ai accepté d'être ministre parce que je me suis dit que ça protégerait la Villa Médicis. Parce que la Villa Médicis est toujours menacée quand même par le ministère des Finances, notamment, qui trouve que ça coûte trop cher. Alors que ça coûte très, très peu cher, mais vraiment très, très peu cher.
pour parler de votre période au ministère de la Culture. C'est vrai que vous gardez un souvenir particulier de votre rencontre et de votre échange avec Vladimir Poutine, Frédéric Mitterrand.
Ah oui, c'est aussi étrange que ça puisse paraître. Un dîner avec François Fillon et lui, on était tous les trois, plus les deux ambassadeurs, mais qui étaient comme des enfants sages. Et Poutine a d'énormes défauts sans s'en rendre compte, et peut-être que ça va en empirant, mais il a une chose, c'est qu'il connaît très bien l'histoire, et il connaît très bien l'histoire de la Grande Guerre. Et moi, j'avais réussi à l'intéresser en lui expliquant, en lui parlant des soldats russes qui nous ont sauvés, en fait, hein, parce qu'on n'aurait pas gagné la bataille de la Marne s'ils n'avaient pas attaqué en Prusse. Donc, ça l'a beaucoup intéressé, et une sorte de relation, je ne dirais pas d'amitié, mais parce qu'on ne peut pas être ami avec des crocodiles, mais une relation confiante quand même s'est instaurée, et je pense qu'elle dure encore d'ailleurs.
Pour terminer cette semaine, une phrase. Il me reste tant de choses à faire. Elle évoque quoi cette phrase pour vous, Frédéric Mitterrand ?
Elle évoque parce que les derniers mots qu'a dit ma grand-mère, quasiment centenaire, quand elle nous a quittés, et toute la famille, nous en sommes encore totalement inconsolables. Et elle explique aussi ce qu'est l'amour de la vie, c'est-à-dire le désir de profiter des instants de la vie pour faire des choses intéressantes. Pas uniquement pour soi, mais pour en faire profiter les autres.
Parmi les choses à faire, auditeur de Totem ce week-end, lire justement « Sans rancune et sans retenue, conversation avec le président Valéry Giscard d'Estaing », publié chez IXO Éditions. Merci en tous les cas d'avoir partagé cette semaine avec nous, Frédéric Mitterrand.
Mais merci, vous avez été très gentil, c'était très sympathique de parler avec vous.
À bientôt, merci.
À bientôt, au revoir.
Totem, le jardin secret, tous les jours à 9h10 et le samedi de 9h à 10h pour les meilleurs moments.